grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse en direct ou en podcast. Vous n'avez pas le temps ou l'envie de cuisiner, alors vous achetez des produits pratiques, attrayants, faciles à préparer et à bouffer, même si ça se mange. Dans votre panier, des cordons bleus de volaille, des soupes moulinées de légumes en briques, des desserts lactés, des croque-monsieur, du pain de mie et pour se donner bonne conscience, du steak végétal à base de soja. Un point commun rassemble cet échantillon, des produits ultra transformés, trop gras, trop sucré, trop salé, assaisonné d'une impressionnante liste d'additifs. Mais comment en est-on arrivé à manger ces produits parfois considérés comme des faux aliments? Qu'est-ce qui les différencie d'un produit brut ou peu transformé? Quels sont les risques à long terme pour notre santé? Peut-on tomber malade en ingérant régulièrement ces aliments ultra transformés? Assiste-t-on vraiment à une explosion des maladies chroniques, à la survenue de certains cancers depuis que nous les consommons? Comment se tourner durablement vers des vrais aliments brut. Élément de réponse avec le professeur Irène Margaritis de l'ANSES, le chercheur Anthony Fardet, Arnaud Daguin, porte-parole de l'Association pour une agriculture du vivant, et Bruno Timsit, journaliste à Enquête de Santé sur France 5, notre partenaire ce matin, et avec bien sûr ce matin les questions d'Aline Perraudin de Santé Magazine. Parvenez-vous à éviter ces aliments ultra transformés? Avez-vous constaté des effets délétères sur votre santé? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Aline.
Écrivain et médecin, auteur du blog Alors Voilà. Chaque lundi, on vous retrouve. Vous nous racontez une médecine à visage humain.
Et aujourd'hui, on va essayer de critiquer cette phrase qu'on entend souvent de la part des soignés. En tant que soignant, c'est « Docteur, j'ai raté ma vie ».
A tout à l'heure, Baptiste Beaulieu. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
Les aliments ultra transformés menacent-ils notre santé? Nos invités vont nous aider à y voir plus clair. Bonjour professeur Irène Margaritis.
Bonjour.
De l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments. Bonjour Anthony Fardet au téléphone, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheur en agronomie et vous avez publié « Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai ». Arnaud Daguin, porte-parole de l'Association pour une agriculture du vivant, bonjour.
Bonjour Annie,
bonjour. Bruno Timsit, vous avez réalisé un documentaire « Demain, ça passe demain » dans Enquête de Santé sur France 5. Anthony Fardet, c'est vous qui avez popularisé la notion d'aliments ultra transformés. C'est quoi exactement?
Ben, en fait, donc ça a été c'est un concept qui a été défini par des chercheurs brésiliens en 2009 pour la première fois. Donc si on peut résumer la pensée des Brésiliens en quelque chose d'assez simple pour le grand public, en fait c'est plutôt des formulations industrielles qui contiennent des ingrédients ou des additifs cosmétiques, hein, donc ça porte bien son nom, d'usage principalement industriel, pour en fait imiter, restaurer ou exacerber goût, couleur et texture, c'est-à-dire colorant, exhausteur de goût et texturant. Donc c'est pour ça que je les ai appelés des fake food, parce que si vous voulez, les vrais aliments n'ont pas besoin de texturants, de colorants et d'exhausteurs de goût. Donc c'est pas toujours facile de les détecter sur l'emballage, mais bon, c'est un travail nécessaire, hein, parce que ça peut enrichir en sucre caché les aliments. Et puis on ne sait pas grand chose en fait sur les effets cocktails de tous ces ingrédients et additifs nouveaux pour l'organisme qu'on rajoute.
Quelle est la différence entre un produit brut, un aliment transformé et un aliment ultra transformé? On peut peut-être prendre l'exemple de la pomme de terre pour bien comprendre.
Oui, alors ces Brésiliens expliquent très bien ça dans la classification NOVA, qui veut dire nouveau en portugais. Si on prend une pomme de terre bouillie, c'est un aliment peu ou pas transformé, c'est le groupe 1 technologique. Ensuite, si vous faites une purée de pomme de terre en ajoutant du beurre et du sel, donc des ingrédients culinaires, c'est un aliment transformé. Et si vous prenez des chips de pommes de terre avec des arômes artificiels ou divers additifs de type cosmétique, hein, donc pour améliorer les qualités sensorielles, on passe à l'ultra transformé en fait. On peut décliner l'exercice pour tous les aliments. Pareil pour poissons frits, sardines à l'huile et nuggets de poisson.
Professeur Irène Margaritis, ça vous convient, vous, cette définition de l'aliment ultra transformé? Est-ce qu'à l'ANSES, on utilise cette notion-là?
Alors, nous utilisons cette notion-là, mais ce que nous regardons surtout, c'est la qualité nutritionnelle des aliments, c'est-à-dire déjà, ce qui est important à l'origine, c'est la teneur en certains nutriments des aliments. c'est-à-dire cette composition qui va avoir un effet bénéfique ou pas sur la santé. Donc dans un aliment, effectivement, on trouve des nutriments, on trouve effectivement des additifs, on va trouver aussi ce qu'on appelle des produits néoformés. Donc en fonction du degré
c'est
de
produit néoformé.
C'est une substance qui se produit dès lors qu'on transforme un aliment d'une façon ou d'une autre. Certains peuvent présenter des risques. Alors normalement, et on y reviendra, tout ça est parfaitement réglementé. Si ce n'est que ce qui n'est pas réglementé, c'est la façon dont nous allons nous comporter en termes de nutrition et en termes de comportement alimentaire, qui va faire qu'à un moment donné, on peut se trouver en situation de surconsommer certains produits, ce qui n'est pas forcément prévu.
Votre regard, Arnaud Daguin, sur cette notion d'alimentation ultra transformée.
C'est l'ultra qui est intéressant là. L'alimentation, elle est transformée depuis à peu près toujours. Quand on parle de néo-produits comme ça, c'est effectivement le gluten en est un, par exemple, puisque, comme on le sait, il n'y a pas de gluten dans le blé. C'est nous qui le fabriquons au moment de la pétrie. Donc, c'est pas tellement, en fait, la façon dont on transforme les choses qui est, à mon avis, importante à considérer. C'est peut-être tout le chemin depuis le sol qui a porté ce produit jusqu'à notre assiette, et même plus loin, je dirais, puisqu'il faut que ça passe à travers nous pour nous constituer. Comme on le sait, c'est pas seulement une question de choses qui nous mettent en bonne santé ou pas, c'est surtout qu'on est constitué par ça, quoi. De fait, on a pris un virage industriel pour beaucoup de choses, et il me semble aujourd'hui qu'on peut être dans une réflexion à rebrousse-poil en disant que peut-être, en fait, c'est pas l'industrialisation ou la massification qu'il faut regarder, mais ce qu'elle implique par rapport aux produits qu'elle traite, et donc à l'amont, à ce qui s'est passé avant elle. Et de fait, si on veut vraiment prendre le sujet dans son ensemble, on est obligé, à mon sens, de considérer tout le voyage d'un produit alimentaire jusqu'à nos assiettes, et même jusqu'à nos toilettes, on va dire.
Anthony Fardy, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je pense que c'est important de souligner que on transforme depuis la nuit des temps. Hein, quand on est passé du cru au cuit, ça a été une très très grande révolution. Il y a plus d'1,5 million années avec la domestication du feu. Donc, les ultra-transformés, c'est vraiment une catégorie de transformation parmi tous les aliments transformés et même les aliments industriels. Donc, il n'y a aucun discours anti-industriel non plus. C'est important de le souligner. Donc, c'est vraiment une catégorie qui a été définie, qui inclut beaucoup plus que la malbouffe, puisque ça inclut aussi des aliments qui sont souvent présentés bons pour la santé, mais qui ne le sont pas, donc qui trompent le consommateur. On peut très bien avoir des aliments enrichis en minéraux, vitamines, marqués blé complet, allégés en gras, en sucre, mais qui sont en fait gorgés d'additifs et d'ingrédients cosmétiques. Donc c'est vraiment cette transformation qui a été un peu dévoyée pour des raisons purement économiques, de temps aussi, de praticité, qui est pointée du doigt. Hein. Donc c'est bien important que nos éditeurs comprennent ça, c'est que c'est vraiment une catégorie d'aliments. Et je pense que c'est important de les reconnaître, parce que comme on pourra en discuter tout à l'heure, il y a quand même de plus en plus d'études qui pointent du doigt, quand on les consomme régulièrement, des risques accrus de maladies chroniques.
Plus une liste d'ingrédients est longue comme le bras, plus on a de chances de tomber sur un aliment ultra transformé.
Bah oui, parce que alors plus la liste est longue, et surtout moins vous reconnaissez les noms, parce que c'est pas des ingrédients culinaires que vous avez l'habitude d'utiliser, plus vous avez de chances effectivement d'être en présence d'un produit ultra transformé. Alors aujourd'hui, vous avez des applications parce que c'est compliqué pour les gens dans le supermarché de détecter ce que j'appelle les marqueurs de l'ultra transformation. Donc le degré de transformation aujourd'hui est indiqué dans plusieurs applications. Donc il y a Open Food Pack qui indique Nova. Et puis vous avez ScanUp qui indique le score SIGA qui est dérivé de Nova et qui permet de détecter immédiatement si le produit est ultra transformé ou pas.
Donc tout le monde ne connaît pas Nova. Expliquez-nous en deux mots ce qu'est Nova. On va y revenir tout à l'heure au cours de l'émission.
Oui, Nova, ça a été publié au début des années 2010 par des épidémiologistes brésiliens. En fait, il faut bien comprendre d'où est partie l'intention de Nova. Les Brésiliens ont vu en 15 ans leur population devenir obèse et diabétique en très peu de temps, dû à la transition nutritionnelle. Donc, ils ont observé en fait que le lien avec la santé était beaucoup plus dans le degré de transformation des aliments que dans seulement la composition, même si elle joue un rôle, mais surtout le degré de transformation. Donc ils ont fait 4 groupes technologiques, les aliments pas peu transformés auxquels on n'ajoute rien, les ingrédients culinaires que vous utilisez à la maison, sel, sucre, beurre, crème, etc. Les aliments transformés sont une combinaison des aliments bruts avec des ingrédients culinaires. Donc vous avez tous les produits fermentés, le pain, le fromage, les plats traditionnels, les plats à la maison. Et puis les ultra transformés qui marquent vraiment le passage, si vous voulez, des vrais aliments à ce que j'appelle moi les faux aliments, parce qu'ils sont souvent gorgés d'additifs et d'ingrédients de type cosmétique, donc comme je le disais, pour restaurer goût, couleur et texture.
Bruno Timsit, vous avez réalisé le documentaire qui passera demain dans Enquête de Santé. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans votre enquête consacré donc à cette alimentation ultra transformée que vous comparez à un poison? En tout cas, vous posez la question.
Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le nombre d'ingrédients chimiques qui composent ces produits. On a retrouvé, pour vous donner un petit exemple, l'un des records, c'est par exemple le cordon bleu industriel.
Ah, oui.
On a demandé à un chimiste dans le documentaire de le décomposer. Et un cordon bleu industriel, ça peut compter jusqu'à quasiment 30 ingrédients. Ce qui veut dire que là-dedans, il y a peu ou très peu de vrais aliments, beaucoup d'additifs, de produits chimiques. Ce sont donc des produits complètement reconstitués. Et je vous avoue que je n'imaginais pas jusqu'où les industriels étaient allés pour fabriquer ces produits-là.
Est-ce que vous continuez à acheter des cordons bleus de volaille, Bruno Timsit?
Non, ça m'a un petit peu dissuadé. J'ai un peu arrêté.
Anthony Fardet, j'ai pioché dans votre ouvrage des exemples d'aliments ultra transformés. Par exemple, la brique Roaco Minute Soupe moulinée, 7 légumes verts. Alors, ça a l'air très sain comme ça. Quand on jette un œil sur la liste des ingrédients, eh bien, on retrouve 4 additifs, du sirop de glucose, de l'amidon, de maïs.
Oui, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des marqueurs de l'ultra-transformation. Alors attention, hein, les antioxydants, les conservateurs ne rentrent pas dans la définition d'ultra-transformation, les Brésiliens l'ont bien précisé. Donc on est bien dans une idée de cosmétique, c'est-à-dire un peu de maquiller le produit pour être un peu vulgaire, de cacher la misère souvent. Donc le sirop de glucose, protéines de lait, les arômes, qui donc quand il n'y a rien derrière, c'est probablement arôme artificiel, l'amidon de maïs. Tout ça sont des marqueurs de l'ultra-transformation, donc ça en fait beaucoup pour un produit. Donc l'idée évidemment c'est de dire que ces produits sont là pour dépanner, qu'ils doivent constituer plutôt l'exception que la règle. Donc c'est bien ça le message, hein. C'est pas de ne plus en manger, mais que ça doit devenir juste l'exception en fait.
Et dans le cordon bleu que citait Bruno Timsit, alors il y a 9 additifs, hein, E331, E316, E1400, E407, E450, oui. E451, E452, E250, E202.
Oui, alors, citer que... bon, il faut rappeler que tous les additifs ne sont pas nocifs. Hein.
Mais enfin,
que les gens aient peur du...
c'est des additifs a priori nocifs que vous citez dans votre ouvrage.
Oui, alors, tous les additifs ne sont pas nocifs. Par contre, il y a les sels de sonde qui sont riches en phosphore, et bon, ça peut poser problème si on en consomme beaucoup. Vous avez des amidons modifiés, mais on ne sait pas trop comment, donc ils ne sont pas forcément bien digérés après au niveau du tube digestif. Vous avez du dextrose, qui est l'autre nom du sucre, du glucose. On se demande, oui, pourquoi du dextrose? Alors, il y a aussi une idée, c'est qu'on ne sait jamais trop pourquoi souvent certains marqueurs de l'ultra-transformation sont utilisés par les industriels. Ça peut être pour des raisons de texture, de crémeux, de conservation, de goût.
Professeur Hervé Margaritis.
Oui, je rebondis sur ce que dit Anthony Fardet, c'est-à-dire que les aliments ultra transformés contiennent tous ces ingrédients, tous ces additifs pour pousser le consommateur à consommer cet aliment-là. Et il y a un effet direct qui est le lien avec la santé qu'on commence à voir de façon épidémiologique, c'est-à-dire pour le moment assez global. Donc maintenant, le travail qui reste à faire, c'est vraiment mettre en évidence des relations de cause à effet entre certains additifs, entre certains ingrédients, etc. Mais surtout, ce que le consommateur doit comprendre, au-delà du fait qu'on lui dit « Ah ben non, mais il ne faut pas consommer trop d'ultra-transformé », c'est pourquoi il ne faut pas en consommer trop. C'est parce que d'une certaine façon, en consommant de l'ultra-transformé, on se fait avoir. C'est-à-dire qu'on consomme un produit, quand on regarde l'étiquetage, les ingrédients en termes de recettes, on n'a aucune idée parce que la recette est dite confidentielle, secrète, donc le consommateur, c'est un secret aussi pour le consommateur. Donc c'est ce qu'il faut comprendre aussi dans l'attitude par rapport à notre alimentation, c'est que quand on achète un kilo de tomate, on sait ce qu'on achète et on sait ce qu'on mange. Quand nous faisons des recommandations et nous proposons des repères de consommation, on propose des repères avec des groupes d'aliments. Sur un aliment transformé, il est impossible de connaître la proportion de chacune de ces catégories d'aliments, par exemple.
Arnaud Daguin.
À propos de tomates, c'est vrai qu'on sait ce que c'est quand on achète une tomate, sauf que non. Voilà, surtout à cette époque.
C'est pas
fou. Ouais, il faut rappeler un peu ça. Le process industriel, là où il commence à devenir vraiment néfaste, c'est quand il impose aux produits ou au manque de produits quelque chose dans le but d'une praticité. Et souvent, par exemple, les additifs dont vous parliez tout à l'heure sont des additifs qui servent à faire en sorte que la ductilité ou que la fluidité ou que la densité soit suffisante pour que les machines puissent faire tout ça à la place des gens. C'est un peu ce qui s'est passé avec les blés modernes pour le pain. Hein, on a voulu que n'importe quel idiot fasse du pain, y compris pas un boulanger, il n'y a pas plus idiot qu'une machine. Et ben on a dit tiens, on va dire aux machines de faire le pain, mais pour ça, il faut que le pain soit un peu plus élastique, mais un peu plus costaud et ça nous craint.
Arnaud Daguin, on reste sans voix devant le nombre d'additifs et d'ingrédients utilisés pour un simple cordon bleu de poulet ou de dinde. Est-ce que ça coûte vraiment plus cher de faire son cordon bleu maison?
Mais non, mais surtout, cordon bleu ou pas, surtout ce qui me paraît maintenant fondamental pour nous tous, hein, c'est que nous fassions cette réconciliation avec le vivant dont on parle là, et elle passe par le fait de refaire la cuisine, et si possible ensemble. Et donc, quand on habite un peu tout seul, ou qu'on est juste deux, une mère avec son enfant et tout ça, et que c'est pas très rigolo, et que c'est une espèce de corvée d'aller faire un truc vite fait pour nourrir, eh ben on pourrait, et on commence à l'envisager, je travaille avec la région Occitanie là-dessus, à Toulouse, avec Carole Delga, qui est très très active sur le sujet de l'alimentation.
La présidente de la région.
Absolument, et on peut comprendre ça, et nous allons essayer de voir comment on peut faire en sorte que les gens refassent la cuisine ensemble.
Refassent des cordons bleus, des vrais cordons bleus à la maison.
Ou rouge, ou vert, ou noir, on s'en fout, mais surtout, c'est qu'il y ait cette approche du produit brut et de sa transformation primaire, comme ça, et la joie de le faire ensemble et d'échanger culturellement, parce que c'est un problème de culture, c'est majuscule qu'on a là.
Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine.
Je voulais revenir sur ce que disait Anthony Fardet quand il disait que les aliments ultra transformés étaient parfois présentés comme des aliments bons pour la santé, et c'est vrai. Je peux en témoigner, par exemple, quand j'ai arrêté la viande, je me suis tournée naturellement vers des steaks végétaux en me disant que c'était meilleur pour la santé. Et en fait, bah, y a tromperie parce qu'on... Il n'y a pas beaucoup de protéines, souvent il y a beaucoup d'additifs, ils sont très salés, donc vraiment il faut faire attention.
Bruno Timsit.
Oui, et parfois les industriels ne reculent devant rien parce qu'on a parfois sur des paquets des étiquettes qui peuvent vous indiquer par exemple, je ne sais pas, sans huile de palme, sans conservateur, alors que finalement derrière vous avez une liste d'additifs qui est considérable, en fait ils vous ont mis sur le paquet ceux qu'il n'y avait pas, mais il y a tous les autres.
Irène Margaritis.
Alors on a un beau règlement européen qui date de 2006 et qui est censé encadrer justement ces allégations santé, à la fois la partie qui concerne c'est plus, c'est moins, c'est riche en c'est source 2, c'est allégé. Et les effets sur la santé, vous savez, ces fameuses petites revendications qu'on va trouver en vous disant que la vitamine B12, c'est bon pour la formation des globules rouges. Si ce n'est que n'importe quel produit peut utiliser cette allégation, ces allégations, ces revendications. C'est-à-dire qu'on peut, pour le moment, ça ne devrait pas être le cas, mais c'est le cas, on peut, pour le moment, manger un produit qui a une composition, qui présente une composition nutritionnelle désastreuse et qui porte une allégation santé et qui vous incite à consommer ce produit-là.
Réflexion de Clem sur notre page Facebook. En consommant des produits ultra transformés, j'ai pu constater qu'ils ont plus tendance à ouvrir l'appétit qu'à rassasier et qu'ils ont un effet addictif. Qu'est-ce qu'on sait sur ça,
C'est une vieille histoire. Les Romains faisaient du garum parce que c'est un agent de sapidité absolument formidable. Et c'est pas étonnant qu'on retrouve aujourd'hui du monoglutamate de sodium un peu partout. C'est des choses qui vont provoquer des réflexes et qui sont des agents de sapidité. Vous savez, c'est l'histoire de la boîte de cacahuètes qu'on finit parce que...
voilà. Alors, au-delà des arômes et des additifs, de simples nutriments, hein, le sucre, les graisses, le sel sont des exhausteurs de goût. Donc c'est très simple de forcer la dose sur un aliment ultra transformé et d'encourager à la consommation de cette façon-là.
Bonjour Floris. Bonjour Floris, bienvenue, vous appelez de Lyon.
Oui, tout à fait, bonjour.
Alors, que vous inspire notre sujet du jour ?
Eh bien, il m'a inspiré en me rendant... Donc, pour reprendre, nous nous sommes rendus compte que ma fille était allergique aux petits pois. Mm-hmm. Mais nous nous en sommes rendus compte parce qu'elle mangeait du poulet à l'école.
Mm-hmm. Et qu'y avait-il dans ce poulet ?
Oui, donc elle a fait des réactions allergiques. En demandant le menu, il y avait notamment des aiguillettes de poulet. Donc, du poulet qu'elle mange à la maison. Et donc, en faisant les recherches, on s'est rendu compte que, en fait, le poulet n'était pas du poulet, c'est qu'il y avait des protéines de pois.
D'accord.
Dans les aiguillettes de poulet.
Anthony Fardet, sur le témoignage de Floris, ce poulet, oui. Ces aiguillettes de poulet qui contient des protéines de pois. On ne sait pas ce que ça vient faire, d'ailleurs, les protéines de pois dans ces filets.
Alors, les protéines de pois, c'est pareil, c'est des constituants qui sont des marqueurs de l'ultra-transformation, parce que c'est des
si vous voulez, c'est des constituants hautement purifiés qui ont été fractionnés, isolés, avec des procédés souvent très lourds, des extractions, des solvants. Et donc moi, ce que ça m'interroge et un message important, c'est que les enfants sont très ciblés par les aliments ultra-transformés parce qu'on, on essaye de concevoir des textures, des couleurs et des goûts qui sont très attractifs pour l'enfant. Donc il va lui donner envie d'y revenir. Et tout ça, c'est très artificiel, c'est des plaisirs faciles, immédiats d'accès. Et donc ça peut créer des clients à vie à ces aliments parce que ils auront, quand ils vont revenir à des vrais aliments avec des goûts plus subtils, moins marqués, moins agressifs, ils vont trouver ça un peu fade en fait. Donc je pense que c'est important que de protéger les enfants parce que voilà, tout, c'est pour ça qu'on parle d'additifs et d'ingrédients cosmétiques, je trouve que ça porte bien leur nom parce qu'on est bien dans l'idée d'exacerber, de maquiller et d'éloigner finalement les gens des vrais aliments. Et les, malheureusement, on remarque que les restaurations collectives, c'est-à-dire EHPAD, hôpitaux, enfants, et les plus défavorisés, donc toute une catégorie de gens finalement qui ne peuvent pas bien se défendre, qui n'ont pas beaucoup la faculté d'élever la voix, c'est souvent ceux-là qui sont beaucoup ciblés par les aliments ultra transformés. Donc je pense que ça, c'est une idée importante. Il y a vraiment, vraiment protéger les gens qui soit n'ont pas beaucoup d'argent ou qui sont en position de faiblesse de ces aliments pour pas que ce soit la base de leur alimentation.
Merci beaucoup, Floris, de nous avoir appelé. Un mot, Arnaud Daguin ?
Oui, sur la restauration collective, parce que en fait, le balancier est en train de repartir dans l'autre sens. C'est pas encore sensible partout, mais je peux vous dire de l'intérieur que c'est un sujet qui est sur la table à peu près pour tout le monde aujourd'hui.
Allez, nous attendons toutes vos questions sur les aliments ultra-transformés au 01 45 24 7000. À la préparation de cette émission, Théo Denmat et Antoine Vandeville, avec l'aide de Laura Laplot. À la réalisation Stéphanie Texier, et j'en profite pour souhaiter un bel anniversaire à Claire Destacan.
Toi qui me parles pour que j'aie moins froid, je te donne tout ce que j'ai à moi, la clé d'un monde qui n'existe pas.
Viens, je t'emmène.
Donc tu m'as dit acide quoi ?
GE202.
Grand bien vous fasse.
Érythorbate de sodium.
Le citrate trisodique.
Sur France Inter.
10h31 et on s'intéresse ce matin à ces aliments ultra transformés qui menacent peut-être notre santé. Question réaction au 01 45 24 7000. Anthony Fardet, rappelez-nous, je rappelle que vous êtes chercheur et l'auteur d'Halte aux aliments ultra transformés. Rappelez-nous ce qu'est un aliment ultra transformé pour ceux qui nous prennent en route.
Oui. Bah en fait, pour faire assez simple et rester fidèle donc à la définition des Brésiliens qui est un peu plus longue, c'est surtout des formulations industrielles qui contiennent soit des ingrédients ou des additifs de type cosmétique hein, pour maquiller le produit entre guillemets. Donc pour imiter, exacerber ou restaurer le goût, la couleur et la texture. Donc ce sont des colorants, des exhausteurs de goût ou des texturants. Alors le sucre de table est un exhausteur de goût qui ne rentre pas dans cette définition parce que c'est un ingrédient culinaire que vous pouvez utiliser vous-même à la maison et qui reste un sucre quand même non ultra transformé contrairement à des sirops de glucose, des sucres invertis, des sirops de glucose fructose. Voilà la définition. Donc on est bien dans l'idée un peu de maquiller un peu le cache-misère, et puis pour exacerber les qualités sensorielles, pour donner envie d'y revenir et de racheter le produit.
C'est pratique, ça se cuit vite et ça marche à tous les coups. Ça, il n'y a pas de souci.
Manger plus de produits frais, un idéal difficile à mettre en place au quotidien.
Pendant les vacances, quand je vais avoir le temps, quoi faire avec les enfants, ils vont adorer éplucher leurs carottes. Il va y en avoir partout, mais c'est pas grave, j'ai le temps, c'est les vacances, voilà. On va en profiter, quoi. Après, honnêtement, dans tous les jours, le travail, le devoir, les bains, l'école, les 50 000 formulaires à remplir. Voilà, je vais pas vous mentir et vous faire croire que j'achète que du bio, que je fais des quiches à la maison et que le matin, quand les enfants se lèvent, il y a des croissants tout faits. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, j'y arrive pas.
Un extrait du documentaire Aliments ultra transformés et le plein de chimie de Bruno Timsit. On la comprend, cette mère de famille, Bruno Timsit.
Ben oui, on en est tous là. C'est-à-dire que finalement, on aimerait faire mieux, on aimerait consommer plus de produits frais, mais finalement, on consomme beaucoup de ces aliments ultra transformés, par contrainte, en quelque sorte. Tout le monde essaie de s'en sortir, mais c'est très difficile aujourd'hui. Voilà, cette mère de famille, quand on a des enfants, quand on est très occupé, c'est compliqué de faire à manger tout le temps. Et voilà.
Arnaud Daguin.
Moi, ça m'agace un peu qu'on me dise que c'est très compliqué de faire à manger tout le temps. Voilà. C'est un truc, on a fait ça pendant des dizaines de milliers d'années. Ça s'est très bien passé. On a pris un virage absolument dingue. Là, on est parti sur une exponentielle de fou où on fait tout un tas d'autres choses dans notre vie que de nourrir l'autre. Ok, très bien. Je pense que on est en train d'en payer la note. Donc voilà, c'est à nous maintenant. C'est le consommateur, c'est-à-dire nous. Cuisinons, réapprenons ce que c'est que faire un potage, c'est quand même pas la mort non plus. Et pendant que ça cuit, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez être sur les réseaux, ou faire vos formulaires ou vos machins. Lancer un plat qui va mijoter pendant 4 heures, c'est pas non plus très compliqué quand même. Aujourd'hui, on peut se permettre des choses comme ça. Ça prend 10 minutes quand on démarre. Mais c'est vrai que culturellement, il faut avoir les moyens de ça. Et c'est pas des moyens forcément d'argent, parce que ça coûte moins cher au final que les produits ultra transformés. C'est des moyens culturels. On a décroché de la cuisine.
Vanessa Descoureaux, journaliste à France Inter, a interrogé des gilets jaunes, comme par exemple Christopher, 30 ans, intérimaire, père de 4 enfants et qui vit à Argentan dans l'Orne. Et il dit « Je me saigne pour faire plaisir aux enfants, je mange de la merde, les produits les moins chers possibles. » Est-ce que moins on a les moyens, plus on est susceptible de consommer des produits ultra transformés ?
Mais c'est faux. En fait, je pense que il a l'impression, cette impression-là, cet homme, mais s'il mangeait les choses les moins chères possibles, eh ben ça serait par exemple, alors je vais être un peu caricatural, mais ça serait aller glaner après marché, ramasser les poireaux et les patates un peu abîmées qu'on va pouvoir nettoyer, tout ça, ça c'est vraiment pas cher du tout. On fait un potage avec ça et c'est le moins cher du monde, mais ça nourrit. Voilà. Donc il faut pas non plus. C'est pas parce qu'on achète un truc dans une marquette qui vaut des milliards au kilo qu'on est obligé de le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plutôt parce qu'on ne sait plus faire autrement, quoi.
Irène Margaritis.
Alors, je pense qu'effectivement, il y a une nécessité de prise de conscience hein, de ce point de vue-là, mais je pense qu'il y a deux leviers quand même. Hein. Il ne faut pas non plus que le consommateur se sente le seul responsable de ne pas faire. Il y a une offre alimentaire. L'offre alimentaire pourrait évoluer aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison qu'on soit obligé absolument. Alors, il y a des jours où on peut le faire, il y a des jours où on ne peut pas le faire. On a aussi des modes de vie qui ont évolué, peut-être pas forcément en bien. Donc, on est quand même dans cette situation qui est une situation réelle. La situation de la mère de famille, c'est de la vraie vie. Donc on devrait pouvoir aller vers des aliments qui pourraient être transformés et qui pourraient être transformés en contenant des ingrédients qui à la fois sont bons à manger et qui de la même façon sont aussi bons entre guillemets pour notre santé. Il n'y a pas de raison.
Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas les reconnaître. C'est-à-dire qu'ils existent.
Je suis tout à fait d'accord. Et là, il y a un vrai problème de transparence quant à la composition de ces aliments-là, quant aux ingrédients qui sont utilisés. Et là aussi, on nous oppose la question de la recette.
Alors, vous savez, Ali, ça fait des années que j'essaye de créer quelque chose, enfin pas tout seul, hein, qui s'appelle l'échelle de Richter. C'est un moyen de mesurer.
Richter.
Richter au pluriel. Et ça part d'une utopie qu'on avait écrite il y a longtemps avec quelques camarades. Bon. Et en fait, c'est un outil et qu'on voit se dessiner maintenant. Les prémices en sont ces petites applications dont on a parlé tout à l'heure, la base de données Open Food Fact, donc Nova au Brésil. Tout ça va s'agréger. On est dans un monde aujourd'hui où les réseaux se tissent quand même relativement vite. Et je rêve, moi, qu'on arrive à cette espèce de tronc commun massivement collaboratif de connaissances sans arrêt amendé par ses propres utilisateurs au regard de notre alimentation. Ça veut dire aussi que nous, les consommateurs, nous avons quand même une exigence, comme vous le dites, envers le système industriel. Or, aujourd'hui, on l'a pas. C'est-à-dire qu'on lui a fait confiance pendant longtemps. Ok, on est en train de s'apercevoir que pour une grande partie, on s'est fait avoir. Mais alors, jusque-là, très bien. Ok, on en est là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on demande à l'industrie ? Eh ben, on va lui demander de respecter ce qui vient en amont d'elle. Et si l'industrie nous dit, oui, mais moi, j'ai des poires, elles sont pas bonnes, mes courgettes, elles ont goût à rien, faut que j'y mette des trucs pour que les gens les aiment, faudrait peut-être se pencher aussi sur la façon dont on a produit ces courgettes.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
Oui, peut-être qu'on pourrait, on a le Nutri-Score, mais mêler deux, qu'on puisse reconnaître les aliments et qu'on aille vers des aliments, qu'on prenne des aliments transformés, certes, mais pas ultra transformés. Et ça devrait être indiqué, peut-être. On pourrait imaginer ça,
ça avec va se faire,
de façon collaborative.
C'est en train de se faire, je crois.
Comment sont fabriqués ces aliments ultra transformés? Bruno Timsit, dans votre doc, vous racontez ce qu'est le cracking. C'est la modification à l'extrême des matières premières, c'est ça? C'est
oui,
peu
c'est
ragoûtant,
ça.
Hein,
oui, c'est, non, en effet, c'est pas très ragoûtant. C'est une pratique qui est assez méconnue et qui est pourtant très fréquente. Des ingrédients issus du cracking, il y en a dans à peu près tous les aliments ultra transformés.
Voilà. Expliquez-nous ce que c'est.
On craque les matières premières. C'est-à-dire que ça peut être le blé, le lait, le maïs, la pomme de terre. Et on va décomposer cette matière première. Par exemple, pour le blé, on va extraire le son, les germes, l'amidon, par exemple. Ces sous-produits, ensuite, on va les transformer. C'est pour ça que vous avez, par exemple, des amidons transformés qui peuvent être transformés 10, 20 fois parfois et qu'on réinjecte dans les produits, dans ces aliments ultra transformés, pour leurs vertus, par exemple, pour donner de la texture, pour donner du goût, etc. Sauf que, entre-temps, ces ingrédients-là, ces matières premières, elles ont été tellement transformées qu'elles ont perdu beaucoup de leur valeur nutritive et que finalement, ces aliments, au final, n'ont plus beaucoup d'intérêt. Ça, vraiment, c'est des sous-produits que vous trouvez dans quasiment tous les aliments ultra transformés qui sont très peu connus de la population.
Anthony Fardet.
Oui, deux remarques. Je voulais répondre à ce que disait la dame de Santé Magazine. Il faut savoir que l'application qui permet de détecter immédiatement par le code barre un ultra transformé existe. Hein. C'est SIGA sur ScanUp qui est téléchargeable. Donc là, vous allez tout de suite savoir le degré de transformation des aliments.
Sur le cracking, Anthony Fardet, sur le cracking.
Alors sur le cracking, Moi, j'aime bien prendre l'image d'un collier de perles, en fait. C'est comme si on séparait les perles du collier. Et qu'on isolait le fil, si vous voulez, la somme des perles et du fil séparés n'a pas la même vertu santé que le collier en entier, en fait. C'est ça l'idée. Donc, le problème de craquer, c'est que c'est négliger, si vous voulez, le rôle du fil qui relie les perles, qui sont les composés de l'aliment. On a tout le temps associé à la raisonner que l'aliment n'était qu'une somme de perles, sans tenir compte du fait que le fil qui relie les perles peut jouer un rôle sur la santé. C'est ce que j'appelle l'approche globale ou holistique de l'aliment. Et donc, on a le sentiment quand même que plus on fractionne, plus on éclate nos aliments, plus on recombine, plus on génère de la maladie chronique. Ça, c'est vraiment... c'est pas vraiment le scientifique qui parle, là c'est plutôt le citoyen ou la partie de philosophe en moi, mais c'est quand même ce qu'on a tendance à observer. Donc,
Arnaud Daguin,
c'est, C'est étonnant le besoin qu'on a de réinventer l'eau chaude chaque fois, parce que ça fait quand même là encore des millénaires qu'on se nourrit avec des aliments qui sont issus du vivant et qui sont tous en interaction tout le temps. Et donc le fait, effectivement, on prend le lait par exemple, qui est l'aliment sans doute le plus craqué aujourd'hui, c'est le fait de le réduire en fragments et en composés pour essayer de recomposer d'autres trucs avec et d'en stocker certains pour pouvoir les vendre sous forme sèche dans d'autres pays, c'est aujourd'hui, on le voit, c'est une aberration de notre système de production alimentaire, et on sait bien que les produits qu'on va reconstituer avec ça n'ont pas, mais alors absolument pas, les mêmes vertus que ceux qui étaient le lait au départ.
Allez, il est temps de retrouver la chronique, alors voilà, de Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Ouais, apparemment, je suis venu un peu tôt. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu, écrivain et médecin, tous les lundis, vous nous proposez une médecine à visage humain.
Oui, Ali, je voulais vous parler d'une petite chose. Quand on est soignant, on est souvent amené à accueillir des personnes qui expriment le sentiment douloureux d'avoir, je cite, « raté leur vie ». Un divorce, un échec professionnel, un différend familial, le motif varie, mais le verdict est toujours le même. « Docteur, j'ai raté ma vie ». Mais ça veut dire quoi, rater sa vie? Et sur quels critères? Déjà à l'école, nous grandissons avec l'idée que la bonne note fait le bon élève, quand la mauvaise note fait le cancre. On ne nous dit pas « tu peux échouer ». Tu n'es ni une imprimante 3D, ni une araignée.
Une araignée?
Oui, l'araignée ne rate jamais sa toile. Elle la tisse parfaitement parce que c'est dans sa nature, c'est instinctif. De la même manière, une imprimante 3D ne rate jamais son coup, elle obéit à un programme. C'est parce que nous ne sommes pas que des animaux et pas que des machines que nous échouons. C'est parce que nous avons cette petite différence-là, l'échec, que nous sommes humains. Et ça, c'est beau. Échouer, c'est d'abord une chance posée là, sur notre trajectoire de vie, une possibilité d'apprendre, et tous les scientifiques le savent, l'erreur est le meilleur des maîtres. Je veux dire, les médecins en sauraient-ils autant sur le pancréas et le cerveau si le diabète et les coups sur la tête n'existaient pas? Les romanciers aussi le savent, si vous regardez un de mes manuscrits de travail, ils sont littéralement saturés de ratures. L'écrivain Gilles Marchand, dans son excellent recueil des mirages plein les poches que je vous recommande, a écrit une nouvelle sublime intitulée « Mon bateau ». C'est l'histoire d'un homme qui rêve de naviguer, mais tous ses bateaux coulent. À chaque fois, il coule, mais lui revient à la nage. La nouvelle se termine comme ça. « Je n'avais plus d'argent, mais je gardais mes rêves, alors j'ai acheté un petit bateau que j'ai mis dans ma baignoire. Il a coulé, mais je le ramenais à la surface. À chaque fois, je le prenais entre mes mains et le ramenais à la surface. Après tout, c'était mon devoir de capitaine, et les capitaines aussi ont des devoirs envers leurs rêves. » Ce que veut dire l'écrivain Gilles Marchand, c'est que l'échec n'est pas un cul-de-sac, c'est une possibilité de recommencer autrement. Apprenons ça aux gamins et aux gamines et ça fera moins d'adultes angoissés et malheureux. J'ai demandé aux personnes qui ont ce sentiment ce qu'elles aimeraient entendre. Voilà. Toi qui m'écoutes, on va pas te prouver que tu te trompes, mais on peut te poser des questions et t'aider à mieux définir cette souffrance, mieux définir la douleur. Si pour toi, rater sa vie, c'est avoir fait un choix trop rapide, à un certain moment, sache qu'il y aura d'autres choix et d'autres possibilités de se remettre sur les rails, ou au moins améliorer le quotidien. On peut faire le point sur ce qui a été fait de positif et ce qu'il reste à faire. On peut toujours aussi critiquer ce mot de bonheur qui est défini et vanté par la société, parce qu'il y a toujours du positif. Rien n'est jamais définitif. À n'importe quel moment de la vie, on peut repartir à zéro, avec de l'aide extérieure par exemple. Une de mes lectrices m'a dit un jour « Tant qu'on est en vie, on a réussi ». Elle avait raison. Car quand on y pense, même la fin du monde, même la fin de ton monde, quand elle arrivera, si elle arrive, ce sera aussi le début de quelque chose. Pour terminer, je vais paraphraser Samuel Beckett. « Tu as déjà essayé, tu as déjà échoué, peu importe. Essaie encore, échoue encore, échoue mieux. »
Alors voilà la chronique de Baptiste Beaulieu. Tous les lundis, on peut voir toutes vos vidéos sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse et sur votre blog. Alors voilà, dans quelques instants, on s'intéresse aux effets des aliments ultra transformés sur notre santé.
Wanna give you my heart, wanna tell you my story. Gonna take it to another level, you and me. Wanna give you my word, let me give you my promise. I will try to make it happen, you can guarantee. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, let me enter your light. Wanna show you my passion.
We can make each other happy if we get it right. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, taking our time and making a stand. We can make this dream come true, only if we want to. We can make this dream come true, only when we understand everything in life is planned. Can we make this dream come true?
Paul McCartney, évidemment.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
10h47 et on s'intéresse ce matin à ces aliments ultra transformés qui menacent peut-être notre santé. Question réaction au 01 45 24 7000. Anthony Fardet, pour vous, ces aliments, je rappelle que vous êtes chercheur, ces aliments ultra transformés sont responsables de nombreuses maladies chroniques. Expliquez-nous et sur quoi vous basez-vous pour affirmer cela dans votre livre Halte aux aliments ultra transformés.
Oui, alors en fait, bon, il y a de plus en plus d'études, hein, de qualité évidemment hétérogène, mais qui vont quand même tous dans le même sens. Donc on a quand même une convergence et un faisceau de présomptions qui est suffisant pour appliquer ce que j'appelle le principe de précaution. Bah, il y a beaucoup d'études, enfin beaucoup, il y a de nombreuses études épidémiologiques qui montrent que les gens qui consomment régulièrement ou en excès ces aliments sont à risque de surpoids, d'obésité, de diabète de type 2, syndrome métabolique, hypertension, excès de cholestérol dans le sang.
Et d'altération du microbiote microbiote intestinal également.
Alors, le microbiote intestinal, oui, il y a une étude de l'accord Nutrinet qui a montré un risque accru du syndrome de l'intestin irritable, mais bon, là, c'est pas forcément le microbiote, mais si vous voulez, maintenant, il commence à émerger des études qui montrent que certains additifs qui étaient pourtant classés non à risque pourraient modifier l'adhésion de bonnes bactéries, par exemple, sur les muqueuses coliques. Donc si vous voulez, on a quand même de plus en plus d'études qui convergent dans le même sens. Et puis on sait aussi que ces aliments sont des calories très pauvres en composés protecteurs, notamment des maladies chroniques, c'est-à-dire les fibres, les minéraux, les vitamines et les antioxydants. Donc ça c'est quand même, toutes les études vont dans le même sens et les résultats sont très solides. Donc on parle de calories vides. Ce sont plutôt des produits aussi hyperglycémiants, hein, donc qui sont favorables au diabète, qui sont souvent peu rassasiants également, et qui contiennent beaucoup, beaucoup de composés tout à fait nouveaux pour l'organisme. Hein, quand on sait qu'il y a plus de 2800 arômes artificiels utilisés en France, sans compter certains additifs et ingrédients très, 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 très transformés, comme des sucres invertis ou des sirops de glucose, on a ici un cocktail dont il faut se méfier. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment limiter la consommation de ces produits.
C'est très anxiogène, professeur Irène Margaritis de l'ANSES.
Ouais, enfin je sais pas si c'est anxiogène. Dans tous les cas, je pense un petit peu. Ce qu'il faudrait, c'est que peut-être que les auditeurs arrivent à y voir clair dans tout ça. C'est-à-dire depuis le début de l'émission, on parle de deux choses. Une chose est l'ultra transformation et l'autre est la composition nutritionnelle des aliments. Alors il se trouve que c'est corrélé et je pense que c'est là un peu. Peut-être l'intérêt de ce nouveau prisme, c'est qu'on se rend compte finalement qu'effectivement la consommation d'aliments ultra transformés est liée, induit des pathologies qui apparaissent maintenant dans les études épidémiologiques. Hein, c'est-à-dire qu'on voit que consommer plus d'aliments ultra transformés a pour effet, présente des risques pour la santé. Mais la raison pour laquelle la consommation de ces aliments ultra transformés présente des risques pour la santé est multiple. Donc, il y a deux choses qu'il faut voir. C'est la question des évaluateurs de risque que nous sommes, c'est-à-dire d'aller chercher les raisons pour lesquelles il y a une relation de cause à effet. les facteurs de cette relation de cause à effet, et de l'autre côté, pour le consommateur, clairement, pour le moment, comprendre qu'il se trouve que ces aliments ultra transformés ont une composition nutritionnelle qui, elle, comme le disait Anthony Fardet, présente des risques pour la santé en raison des composés qui s'y trouvent.
Bruno Timsit, qu'avez-vous constaté au terme de votre enquête, dans votre doc, qui passera demain soir sur France 5?
Pour moi, pour dire les choses très simplement, j'ai l'impression que ces aliments ultra transformés sont une sorte de compilation ou de best-of de tout ce qu'il ne faut pas manger. C'est-à-dire, finalement, ce sont souvent, la plupart du temps, des aliments qui sont très gras, très sucrés, très salés, donc qui ont une mauvaise composition nutritionnelle. Et s'ajoute à ça tout un tas d'additifs dont certains sont controversés et néanmoins autorisés, ce qui pose certains problèmes. Et donc voilà, ces aliments représentent tout ça. Donc même si on en est encore au faisceau de présomption, puisque ce sont souvent des études statistiques qui démontrent la dangerosité de ces produits, je pense qu'il faut quand même s'en méfier, ça paraît assez évident.
Il me semble que nous sommes condamnés, et c'est pas mal, à exiger maintenant une alimentation qui soit dans le droit fil du vivant. Et tant qu'on n'a pas les outils pour dire si elle l'est ou pas, ça va être compliqué. Ces outils sont en cours d'élaboration, je pense qu'on va y arriver. Et il faut comprendre ce que ça veut dire, une alimentation dans le fil du vivant. Ça veut dire depuis des sols vivants.
Bonjour Florence, vous appelez de Dourdan, en région parisienne, bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors vous avez deux enfants, qu'est-ce que vous avez constaté?
Eh bien écoutez, moi j'ai deux enfants, on a découvert cette qui ont mal au ventre à chaque fois, surtout le deuxième quand on mange des plats préparés surgelés. Ils adorent le hachis parmentier et donc des fois j'étais obligée d'acheter des hachis parmentiers tout près. Et j'ai remarqué qu'ils avaient surtout le deuxième mal au ventre. Et de manière exacerbée, à tel point que j'ai pris la décision de faire consulter mes enfants par un gastropédiatre qui a diagnostiqué chez mon aîné le syndrome du côlon hypersensible dans sa forme sévère. Et donc tout ce qu'elle mange l'a fait souffrir.
Anthony Fardet, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette expérience de Florence?
Si vous voulez, il faut bien comprendre que ce nouveau concept d'aliments ultra transformés englobe beaucoup de choses. On a parlé d'une mauvaise composition, beaucoup d'additifs dont on sait très peu de choses sur le long terme, sur les maladies chroniques à très long terme, sur l'effet cocktail, sur la microflore, sur le comportement des enfants le matin. Donc, c'est vrai qu'on manque de recul encore. On a des indices qui, je pense, sont suffisants parce qu'ils convergent tous dans le même sens pour alerter, faire attention. Si vous voulez, par exemple, le cas des additifs, c'est qu'on a autorisé de commercialiser beaucoup d'additifs avec une approche très réductionniste, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment fait le tour de la question sur le long terme, c'est-à-dire qu'on s'est pas trop occupé de l'effet cocktail. Par exemple, il y a une étude qui a été faite en Nouvelle-Zélande où ils ont pris un groupe d'enfants qui consommaient aucun additif le matin et un autre qui consommait des additifs. Ils ont observé des effets significatifs sur le comportement à l'école en termes. Donc, on commence à voir de plus en plus de résultats émerger et qui semblerait que certains additifs classés non à risque pourraient peut-être finalement poser des questions sur le long terme. Mais le problème, c'est qu'on fait des études souvent très court-termistes parce que dans cette approche très réductionniste, on veut toujours commercialiser le plus vite possible.
Arnaud Dagan.
Oui, mais sur cette approche qui doit être holistique de la bouffe, c'est toujours
global.
Un peu idiot. Oui, global, oui, c'est un peu idiot de raisonner en silo, c'est-à-dire par morceaux. C'est exactement la même chose qu'avec le lait, quoi.
Merci beaucoup Florence d'être intervenue ce matin.
Nous avons travaillé dans le cadre de la cohorte Nutrinet Santé sur les relations entre la part d'aliments ultra transformés dans le régime alimentaire et l'apparition au fil du temps des cancers. Donc nous avons pour cela travaillé sur environ 105 000 adultes français et nous avons observé que pour une augmentation de 10% de la part d'aliments ultra transformés dans le régime, on avait une augmentation d'environ 10% du risque de cancer au global et notamment de cancer du sein. Les aliments ultra transformés présentent plusieurs caractéristiques qui potentiellement sont des facteurs de risque. Il y a d'abord les caractéristiques nutritionnelles. Ce sont souvent, en moyenne, des aliments qui vont être plus riches en énergie, en acides gras saturés, en sel, plus pauvres en vitamines, en minéraux, en fibres. Donc ça, c'est l'aspect nutritionnel. Il y a l'aspect additif alimentaire, avec certains potentiellement qui pourraient représenter des risques pour la santé. Donc effectivement, ça peut être des aliments qui cumulent plusieurs de ces facteurs de risque.
Mathilde Touvier, chercheuse à l'INSERM, qui intervient dans le documentaire Aliments transformés, ultra transformés, le plein de chimie. Alors beaucoup de questions sur le lien entre la surconsommation d'aliments ultra transformés et l'apparition de certains cancers. Dans une étude publiée dans le British Medical Journal en 2018, cette année donc, des chercheurs français suggèrent le lien entre la consommation des produits ultra transformés et l'apparition de tumeurs cancéreuses. C'est une étude menée par l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle en partenariat avec l'INSERM et l'INRA. Qu'est-ce qu'on peut dire, Anthony Fardet, de sûr sur cette question-là?
Ce qui est intéressant, c'est que oui, effectivement, alors ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que pour chaque augmentation de 10% de produits peu transformés, on observe une réduction du risque de 9% du cancer total, et ça, on l'a pas assez souligné, donc ça va aussi dans l'autre sens. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est quand on ajuste, alors là c'est un petit peu du jargon scientifique, par les teneurs en nutriments, c'est-à-dire sel, sucre, gras et énergie, le risque reste. Donc ça veut dire que c'est pas seulement lié à une teneur élevée en sucre, sel et gras. Il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, et comme souligné par Mathilde Touvier, peut-être aussi tous ces composés étrangers à l'organisme. Donc il y a forcément des études très intéressantes à mener pour dans l'avenir sur tous ces additifs et ingrédients artificiels qu'on ingère.
Oui, ce qui est clair, c'est qu'une étude épidémiologique ne pose pas une vérité en soi, c'est-à-dire qu'elle met en évidence, elle fait apparaître un phénomène qui est l'apparition des cancers avec les aliments ultra-transformés. Ce qui est important, c'est d'aller chercher les causes maintenant individuellement. Il faut savoir que sur les effets cocktails, c'est pas qu'on n'a pas cherché, c'est que les chercheurs cherchent. Les effets cocktails, ils sont extrêmement difficiles à mettre en évidence.
En quelques mots, beaucoup de questions sur les applications type Yuka. Est-ce que ça peut servir à repérer ces aliments-là?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces applications permettent de donner une information un petit peu digérée sur l'information nutritionnelle qui figure sur les paquets. Néanmoins, elle ne doit pas permettre d'orienter à elle seule le comportement alimentaire. Il est très important de comprendre que manger tout le temps quelque chose de vert, c'est pas forcément manger équilibré et diversifié. On peut manger la même chose, ce sera vert tout le temps, et on n'atteindra pas d'équilibre alimentaire.
Il faudrait pas qu'on fabrique de l'information ultra transformée.
Et on termine avec ce message de Véro sur notre page Facebook. Est-ce que la solution à la malbouffe ne serait pas de revenir à des cours de cuisine à l'école, d'amener les enfants sur les marchés pour leur donner le goût de préparer et leur montrer que cela coûte aussi beaucoup moins cher?
Bien sûr que si.
Merci à tous. On refera d'autres émissions sur ces questions-là. C'est assez passionnant. Bruno Timsit, votre documentaire passe demain soir dans Enquête de santé sur France 5. Anthony Fardet, on peut lire avec profit halte aux aliments ultra transformés. Merci Irène Margaritis et Arnaud Daguin d'être venu ce matin.
À vous.
Demain,
merci.
Nous attendons toutes vos questions sur les rêves au 01 45 24 7000.